On pourrait comparer le Dvar Malchut à une carte trésor. Comme on voit que les marins utilisent des cartes marines pour se diriger à travers les océans, pour se diriger sur les mers. Et en particulier, quand on pense à ça, à une carte au trésor, on se rappelle donc de tous ces romans, toutes ces histoires où on voit des hommes qui vont partir à la recherche d'un trésor et qui vont utiliser donc cette carte au trésor pour justement trouver ce trésor. Pourquoi on pourrait comparer le Dvar Malchut à une carte au trésor? Parce que le trésor dont il est question ici, c'est vraiment la délivrance finale, la Géoula, le dévoilement du Mashiach. Et cette carte au trésor, pourquoi employer ce mot-là? C'est parce que, de la même façon, quand on voit le capitaine d'un bateau qui doit mener son navire et qui doit vraiment, qui trace un itinéraire sur une carte marine et qui suit cet itinéraire, il doit affronter parfois des tempêtes, il doit affronter des orages et il doit toujours mener son bateau comme il faut. Alors évidemment, les enseignements du rabbi nous permettent de mener ce navire-là. Ce navire, c'est finalement c'est nous-mêmes, c'est notre propre corps, c'est notre âme, c'est notre esprit qu'on doit mener à bien. On doit mener à bien notre mission et on doit savoir utiliser toutes les forces de notre âme pour mener à bien cette mission. C'est pour ça qu'on pourrait comparer donc tous les enseignements de la Chassidoute. C'est comme les instruments dont on a besoin, comme un compas, on a besoin d'une carte, on a besoin parfois même d'une loupe pour trouver un itinéraire, pour savoir se comporter sur cet océan immense, l'océan de notre existence, de la vie, de notre propre vie. Et donc tous ces enseignements, ils vont nous aider à nous forger une personnalité, à acquérir des forces pour pouvoir mener à bien cette mission-là. Cette mission-là, en fait, c'est de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. Et pourquoi on peut dire que le Dvar Malchut lui-même, il est comme une carte au trésor, c'est parce que plus que n'importe quel ouvrage, il parle de la Géoula, il parle du dévoilement de l'essence de l'âme juive, et le dévoilement justement de cette partie la plus profonde de notre âme, c'est ce dévoilement-là qui va nous permettre d'accéder au dévoilement de l'essence divine. Comme il est écrit dans la Chassidoute, et le Rabbi il souligne toujours cette idée-là, c'est quand on révèle, quand on va puiser dans les trésors du palais, de notre palais, comme un roi qui va aller chercher, qui va puiser dans ses trésors, il va pour mener la guerre contre ses ennemis, de la même façon, on doit puiser dans nos trésors, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes, pour susciter l'éveil divin, pour provoquer la délivrance, pour réveiller ce désir de Dieu de nous accorder la délivrance finale. Donc on doit tout faire. On doit tout faire pour révéler l'essence de notre âme. Et c'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'un trésor. Le trésor qui est en nous-mêmes. C'est pour ça qu'on peut dire que le Dvar Malchut, vraiment, c'est comme une carte au trésor, puisque chaque semaine, en étudiant la paracha dans le Dvar Malchut, on va trouver de nouveaux moyens d'accéder à cette victoire. Et le Dvar Malchut de cette semaine, donc sur la paracha Chayei Sarah, il nous parle d'un sujet qui revient sans cesse, puisqu'on en parle sans cesse dans tous les Dvar Malchut. Il s'agit de l'union entre cette lumière divine infinie, cette lumière qui est illimitée, l'essence divine, l'union de l'essence divine avec les limites de ce monde, avec ce corps matériel. Alors pour illustrer cette union-là, le Rabbi, il va nous parler du mariage de Yitzhak et de Rivka, et il va nous dire donc que ce mariage-là, le premier mariage juif depuis la circoncision d'Abraham, ce mariage-là, il est une bénédiction pour tous les mariages à venir de toutes les générations dans le peuple juif. Mais plus que cela encore, il représente même le fondement de tous ces mariages, mais aussi ce qui va arriver par la suite, le don de la Torah, qui représente aussi l'union entre l'assemblée d'Israël et le Saint béni soit-il. Donc, le don de la Torah lui-même, et on voit même que la Torah elle-même, elle représente aussi l'union entre l'esprit et la matière. De la même façon, Yitzhak, il va représenter l'esprit, et Rivka, il représente le corps. Donc cette idée-là d'unir l'esprit divin avec le corps, c'est au centre même de la Torah elle-même, puisque la Noor HaZaken nous a appris, par exemple, que la Torah, elle est appelée la voix de Yaakov, comme c'est écrit dans la Torah, quand Esav, il parle, il entend la voix de son fils, il dit, c'est la voix de Yaakov. Pourquoi la Torah, elle est comparée à une voix? Parce que la voix, elle unit un sentiment qui est intérieur, qui est impalpable, un sentiment qui est abstrait, un sentiment qui est vraiment caché dans notre cœur. Et la voix elle va unir ce sentiment-là qui est abstrait et impalpable avec les mots de la Torah. C'est-à-dire que pourquoi on parle de la voix pour parler de la Torah, c'est parce que la Torah elle-même est l'unie, l'esprit divin, donc c'est ce qui est impalpable, c'est ce qui est enfoui dans le cœur, le sentiment, avec des mots matériels, les mots qui sont écrits dans la Torah, ils sont écrits avec de l'encre sur du parchemin, et donc dans cette encre-là, dans ce parchemin-là, vient s'habiller l'esprit divin. Donc on voit que la Torah elle-même représente aussi cette union-là, l'union entre la matière et l'esprit. De la même façon, Yitzhak qui représente l'esprit et Rivka qui représente le corps lui-même, c'est aussi une qualité qui appartient au Mashiach lui-même, puisque le Rabbi nous apprend que le Mashiach, c'est l'union entre le Shem Ma et le Shem Ban. Le Shem Ma, ce nom divin-là, il représente le divin, et le Shem Ban, il représente le corps. Pourquoi on parle d'union entre l'esprit et du corps pour le Mashiach? C'est parce que le Mashiach lui-même, il est d'un côté, c'est un être de chair et de sang, donc ça c'est le Shem Ban, mais en même temps il est l'envoyé du Saint béni soit-il, donc il est, comme on dit dans la Torah, celui qui est l'envoyé, il est comme celui qui l'envoie, donc d'un autre côté le Mashiach, il est comme Dieu. Donc il possède une qualité qui est totalement divine, et en même temps c'est un être de chair et de sang. Donc on voit que le Mashiach aussi, il représente cette union-là entre la matière et l'esprit. Maintenant, on pourrait parler ici, pour comprendre de manière profonde cette idée-là, on pourrait se rappeler d'une sicha du Rabbi, dans laquelle le Rabbi va nous parler de la beauté de Sarah. Alors, il nous dit que cette déclaration de la Torah, quand on dit que Sarah était belle à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans, ça paraît étonnant. Comment une personne peut être belle à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans? Comment ça se fait? Puisqu'on sait tous que l'homme, il est soumis à des changements, on voit bien que au fil des ans, on voit que le corps il va vieillir, on voit que l'homme il se fatigue, on voit que il s'affaiblit. Alors comment on peut parler d'une beauté comme ça durable au point que Sarah était belle à 7 ans comme à 20 ans et comme à 100 ans? Alors pour ça, on doit comprendre que Sarah en fait, c'est la femme d'Abraham, c'est l'épouse d'Abraham, et qu'Abraham c'est le premier juif et que chaque juif il possède cette qualité-là d'avoir une âme qui est une parcelle de divinité véritable, comme c'est écrit dans le Tanya, c'est souligné dans le Tanya dès le début des livres du Tanya. Donc, comme on l'apprend même quand on étudie les textes du Rabbi, les Mahamarim, de tous les maîtres de Chabad, on apprend que l'âme juive, l'essence de l'âme juive, elle est enracinée dans l'essence divine. Donc, l'âme qui s'habille dans le corps, elle est... Pour reprendre l'exemple de la Morazaken, il dit que l'âme, c'est comme une corde dont l'extrémité, elle est attachée tout en haut dans le ciel et qui descend jusqu'en bas sur la terre. Donc, si on agite la partie de la deuxième extrémité qui descend sur la terre, alors ça a un effet sur l'extrémité supérieure. De la même façon, si un homme, il travaille en employant de tout son pouvoir les capacités de son âme qui s'habille dans son corps, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments et ses actes, s'il les emploie au maximum, alors Dieu va dévoiler en cet homme-là la force de la partie qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme. Donc ça, c'est un enseignement de la Morazaken qui nous dit celui qui travaille pendant les jours de la semaine, il mange le jour du Shabbat, c'est-à-dire celui qui, tout au long de la semaine, il s'attache à étudier la Torah au moyen de ses forces qui sont malgré tout limitées, son intellect, mais s'il les pousse au bout, si vraiment il a ce mérite-là de travailler de toutes ses forces avec ses forces qui sont limitées, son intellect, s'il travaille même sur son cœur, qui fait un travail pendant la tefila, qu'il agit sur vraiment son âme animale, qui parvient à combattre son yetzer hara, et puis s'il accomplit les commandements divins au moyen d'actes, s'il agit véritablement de toutes ses forces, alors cet homme-là, qui se fatigue pendant les 6 jours de la semaine, il va manger le jour du Shabbat. Ça signifie que le jour du Shabbat, il va recevoir cette lumière supérieure qui provient de l'essence de son âme. Il va le recevoir en cadeau, c'est pour ça qu'on parle d'une âme yétera. C'est l'essence de l'âme qui va se dévoiler pendant le Shabbat, et donc qui va comprendre même des choses, s'il étudie la Torah ce jour-là, pendant le jour du Shabbat, il va comprendre des choses qui sont au-delà de son intellect. Donc, chaque juif, il a le pouvoir d'attirer la force de l'essence de son âme, et à la lumière de ce qu'on vient de dire, on peut comprendre maintenant pourquoi Sarah, elle était belle à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. La réponse du rabbi est toute simple, c'est parce que l'âme de Sarah puisait dans la lumière d'Orin Sof. L'âme de Sarah, elle était nourrie par l'essence de son âme. C'est-à-dire que cette partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, elle est évidemment au-delà des limites du temps et de l'espace, puisqu'elle fait partie vraiment du divin, elle est divine, et donc le divin, il est au-delà de ce monde, et celui qui s'attache à travailler vraiment de toutes ses forces, alors il va attirer cette lumière infinie. Alors on peut comprendre, évidemment, que s'il attire en lui-même cette lumière qui est infinie, alors l'infini qui va briller dans son corps, ça va briser les limites du temps, et donc ça va faire qu'on va parler de la beauté de Sarah, on va parler qu'elle a une beauté qui est au-delà des limites. Elle est belle à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. Alors cette image-là de Sarah, cet exemple vraiment de ce qu'est la beauté véritable, puisqu'on voit que la beauté, quand on parle de beauté, de la beauté de Sarah, on doit comprendre que c'est une beauté qui est au-delà même de ce qui est matériel. C'est quelque chose, l'âme de Sarah puise dans la lumière infinie de Dieu. La lumière infinie de Dieu, elle est au-delà de toute forme. Mais si cette lumière infinie de Dieu est resplendie dans le corps, elle illumine le corps, alors on va parler de beauté. Donc on comprend que cette beauté-là, elle est liée, elle exprime l'attachement de Sarah à Dieu. Alors le rabbi nous enseigne dans une autre sira que l'âge même de Sarah, quand on parle que les jours de la vie de Sarah étaient de 127 ans, 127 ans, ces chiffres-là, 120 et 7, c'est une allusion à l'enchaînement des mondes. Le chiffre 100, il représente la séphira de Keter. Le chiffre 20, il représente la séphira de Chorma et de Bina, qui sont les premières séphirotes du monde d'Atzilut. Et le chiffre 7, il représente les 6 midot du monde d'Atzilut, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, plus la séphira de Malchut, qui est la 7e, 6 plus 1, 7. Donc 7, ça représente les 7 midot du monde d'Atzilut. Donc l'âge de Sarah, les jours de la vie de Sarah sont de 127 ans. Et 127 ans, donc, c'est une allusion à la descente de la lumière divine à partir de la séphira de Keter jusque dans Malchut. Donc ça représente cette union entre le divin et le corps. Le divin, c'est la séphira de Keter, et Malchut, ça représente le corps de ce monde ou le corps de l'homme. À partir du moment où on agit vraiment de toutes nos forces dans ce monde matériel, dans ce corps-là matériel, et qu'on agit même sur le monde, qu'on s'occupe de raffiner et de sanctifier non pas seulement notre propre corps, mais aussi le corps de ce monde matériel, alors on va attirer, on va faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, en d'autres termes, pour la séphira de Keter, la lumière de la séphira de Keter, qui désigne vraiment la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Donc l'âge de Sarah lui-même, il est une allusion à cela. Et donc on peut faire le lien ici, et dire que vraiment de faire une demeure pour l'essence de Dieu, c'est ça parvenir à la beauté véritable. On peut aussi ajouter à cela que le rabbi il dit dans une autre sira que pourquoi on parle des jours de la vie de Sarah, c'est pour dire que Sarah, elle agissait sur ses propres jours, c'est-à-dire qu'elle agissait sur sa vie. Elle n'était pas soumise à la vie, mais c'est elle-même qui dominait sa propre vie. Et donc ça, un juif, il est parfaitement capable de cela. À partir du moment où il décide de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, alors il parvient à faire vraiment, à se situer au-delà de l'espace et du temps, et c'est de cette manière-là qu'on parvient vraiment au dévoilement du Mashiach, au dévoilement de vraiment de la volonté de Dieu, allusionnée par la séphira de Keter. Voilà que ces mots-là s'accordent avec le désir de chacun vraiment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer la délivrance finale et triat amitim bezrat Hashem et Shabbat Shalom au Mevorach.